La chronique prison, Bernard Gimonet.
Chers amis, chaque année, le 1er mai est l'occasion de grands rassemblements et manifestations. Ce rendez-vous fait référence au 1er mai 1886, où les syndicats américains obtiennent la journée de 8 heures. Une grève générale s'ensuit après des refus par certains patrons d'appliquer ces accords. Les manifestations de Chicago dégénèrent alors avec des morts et un attentat contre les forces de l'ordre. 4 syndicalistes anarchistes seront pendus malgré l'inexistence de preuves. Le 1er mai est donc une date hautement symbolique choisie comme journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Mais le 1er mai s'arrête aux portes des prisons. Bien sûr, on imagine mal les prisonniers obtenir une permission pour aller défiler. Mais en prison, il existe bien des travailleurs et ceux-ci restent privés de certains droits les plus élémentaires. Rappelons d'abord qu'entre les murs, la rémunération est extrêmement faible. Dans les ateliers de production, le minimum légal est 45% du SMIC. Lorsque l'activité de travail concerne le fonctionnement de la prison elle-même, il oscille entre 20 et 33% du SMIC. Aussi dérisoire soit-il, ces taux ne sont même pas toujours respectés, avec encore récemment des rémunérations à la pièce dignes du XIXe siècle. Une tentative de justification est parfois avancée en rappelant que les détenus sont nourris et logés, très mal au demeurant. Mais il n'y a pas que le salaire qui pose problème. En prison, pas d'assurance chômage en cas de rupture de charge ou à l'issue de la détention. Pas d'affiliation au régime de retraite complémentaire. Pas d'indemnité journalière en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une réforme de 2021 a pour ambition de mettre fin partiellement à ces anomalies, mais son entrée en vigueur pourrait même ne pas avoir lieu avant décembre 2024. Le travail en prison est pourtant un facteur essentiel de paix et gage de réinsertion. On comprend bien sûr le souci de la justice qui cherche à inciter les entreprises à s'implanter en prison. Et pourquoi le ferait-elle sans compensation des difficultés inhérentes à la gestion de l'atelier à l'intérieur des murs? Un alignement pur et simple sur le statut des travailleurs libres est-il réaliste? Serait-il contre-productif en incitant les entreprises à se désengager? Mais certaines contreparties semblent tout de même exagérées. Est-il normal, par exemple, de perdre sa rémunération lorsqu'on doit se rendre à un des rendez-vous imposés avec des soignants, le juge ou même un visiteur? Sans forcément s'aligner sur des revendications syndicales classiques qui feraient fi du caractère spécifique de l'activité économique en détention, c'est bien en profondeur qu'il faut revoir le sens, le contenu et les conditions du travail en prison.